おかしいおかしい。
Dialogue entre Congolais avec Alain Jonks à la présentation.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Réaménagement depuis vendredi dernier du gouvernement Mouzito dont l'un des objectifs est l'amélioration du social des Congolais. Comment le gouvernement Mouzito 2 compte-t-il atteindre ses objectifs et avec quels moyens? Nos invités sont Louis-Alphonse Koyagalo Mbasete Gerengo, secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Koyagalo.
Bonsoir.
Maître Lumia Doumalegui, député national de l'opposition et vice-président du groupe parlementaire des chrétiens démocrates à l'Assemblée nationale. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Joséphine Ngalula, coordonnatrice nationale du réseau Action Femmes RAF, membre de la société civile. Bonsoir, madame Joséphine.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes également très nombreux à réagir, vous, chers auditeurs. C'est le cas de Mouindo de Butembo Nord. C'est vous qui dites « Ces remaniements répétés déstabilisent la politique interne du pays. Comment, en moins de 4 ans, l'on puisse avoir 4 gouvernements sans vraiment répondre aux besoins du peuple? Quelle est la garantie que le gouvernement Mouzito 2 ne tombera pas dans les erreurs des gouvernements passés? Michel Moussa Kabembandaka à l'Équateur. Tant que la vie sociale des Congolais ne s'améliorera pas, les multiples remaniements des gouvernements ne seront pas profitables aux Congolais. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Réaménagement du gouvernement de la République démocratique du Congo et du cabinet du chef de l'État. Le président Joseph Kabila les a fait officiellement depuis vendredi soir à Kinshasa. Adolphe Mouzito est reconduit premier ministre de ce nouveau gouvernement dont l'effectif est revu à la baisse. Il passe de 54 à 43 membres. Cette nouvelle équipe gouvernementale est formée en fonction du regroupement de certains portefeuilles ministériels. Elle devra, selon quelques assignations, améliorer les conditions de vie sociale des Congolais, appliquer la tolérance zéro et organiser des élections générales. D'après la structure de ce gouvernement, 23 membres du gouvernement sortant sont reconduits et 20 autres ont fait leur entrée. Des précisions avec Askin Zigwasayoro.
Ce gouvernement qualifié de Mouzito 2 comprend 3 vice-premiers ministres avec portefeuille, 34 ministres et 7 vice-ministres. 4 ministères sont fusionnés en 2. 8 postes de vice-ministres sont supprimés. Nzanga Mobutu quitte son ancien poste supprimé pour occuper le poste de vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Adolphe Lumanu quitte le cabinet de chef de l'État pour exercer les fonctions du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le nouveau poste de vice-premier ministre de poste, téléphone et télécommunications est confié à M. Simon Bouloupi Galate, un de nouveau à faire son entrée dans ce gouvernement. Dans les rangs des ministres, des grosses pointures du gouvernement sortant sont reconduites. Il s'agit entre autres des ministres Alexis Tambo des Affaires étrangères, Olivier Kanitatou du Plan, Lambert Mende de la communication et médias, Charles Mwando Simba de la défense et enfin Janine Mabunda du portefeuille. Parmi les sortants, Émile Bongeli, vice-premier ministre en charge des reconstructions, un poste supprimé. Atanas Matinda est remplacé à son poste de ministre des Finances par M. Nakatampoyo. Ce gouvernement a pour mission principale dans le reste du mandat de Joseph Kabila se battre pour le social de la population, continuer l'œuvre des 5 chantiers et organiser les prochaines élections générales.
Alors pour ce premier tour de table, je vous pose à tous la même question. Commençons par vous, Louis-Alphonse Koyagalo. Comment vous avez reçu la publication de l'équipe Mouzito 2?
J'ai reçu cette publication avec beaucoup de satisfaction et d'espoir. Satisfaction parce que les peuples congolais attendaient une nouvelle équipe. Cela a été fait, le chef de l'État a mis en place une nouvelle équipe. Espoir pourquoi? Parce que tout changement bien structuré, tout changement bien agencé apporte toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau en fait parce que nous avons constaté là une compression très sensible de l'équipe. Une compression qui va certainement avoir des retombées sur les éléments budgétaires de l'État et ce qui va permettre de faire une économie qu'on peut utilement affecter ailleurs. Espoir aussi parce que il y a certaines personnalités que tout à l'heure l'introducteur a appelées les grandes pointures, elles sont confirmées à leur poste. Ils ont fait relever le niveau de l'espoir du peuple congolais. Je vois le secteur de la défense, par exemple, le secteur des affaires étrangères, le secteur de la communication. Eh bien, je crois que tout Congolais honnête peut reconnaître que ceux que je viens de citer, parmi tant d'autres, ont fait de leur mieux, d'abord pour stabiliser la situation, et puis ensuite apporter un plus dans la gestion de l'État, dans leurs secteurs respectifs.
Merci Louis-Alphonse Koyagalo. Maître Louméa Doumalégui, comment vous avez accueilli cette publication?
C'est un non-événement pour nous.
Pourquoi?
Nous considérons ce gouvernement, nous le comparons à un moteur diesel d'un vieux véhicule dont le démarrage sera très difficile. C'est un gouvernement qui est composé des hommes glaciales qui sont indifférents aux clameurs de notre peuple déçus par les promesses électorales. Donc, vous avez même noté qu'il y a 23 qui reviennent, tous chefs de parti, en majorité. Nous savons le comportement du chef de parti à la veille des élections, dont nous sommes déçus.
Malgré ces gros poissons dont a parlé Louis-Alphonse Koyagalo, qui ont su relever le niveau dans certains secteurs, pour vous, ça reste un non-événement?
Il n'y a aucun secteur qui a été relevé, parce que la misère sociale demeure têtue. Partout où vous partez, à travers le pays, vous sentez la désolation et vous lisez la déception. Et nous sommes à la veille des élections. Cela doit nous interpeller. Je crois que le secrétaire général adjoint du PPRD, il fait sa propagande.
De l'ANP.
De l'ANP.
Alors, donc pour vous, ce moteur diesel dont le démarrage sera difficile n'appelle à aucun espoir, contrairement à ce que dit M. Koyagalo.
Je ne vois pas l'espoir sur le plan social. Peut-être sur le plan sécuritaire, nous pouvons discuter, surtout que vous savez qu'il y a des promesses qui n'ont pas été respectées.
Voilà, Madame Joséphine Ngalula, vous êtes coordonnatrice nationale du réseau Action Femmes RAF, membre de la société civile. Quelle est votre perception de cette publication?
Disons que la publication du gouvernement m'a donné une matière à réflexion. Je me suis posé plusieurs questions. Je me dis, est-ce que c'est vraiment un problème d'homme ou bien c'est un problème de système? Nous sommes de la société civile. Nous aurions voulu voir les systèmes favoriser le développement social. Que tout ce que nous déplorons comme problème puisse trouver au moins une solution. Mais là, nous voyons un changement. Pour d'abord, en ce qui concerne notre lutte de la promotion des droits de la femme, nous voyons que la femme, au lieu qu'elle soit représentée dans le respect des textes de notre Constitution, qui est notre texte de base, par exemple, l'article 14 de la Constitution, on voit qu'on revoit, la représentation de la femme à la baisse. Ça, c'est un problème. Par rapport au social, si on lit les budgets de l'été, les budgets actuels de 2010, les pourcentages alloués à l'agriculture qui doivent être en principe priorité des priorités pour prétendre résoudre le problème de la faim, qui est un problème, disons, un des premiers objectifs de développement du millénaire, on ne voit pas un budget qui répond à cette préoccupation. Si on regarde le budget de la santé, ce n'est même pas 3 ou 4%. Non, et pourtant, nous sommes signataires des conventions de Maputo, des protocoles de Maputo sur la santé, où on demande au gouvernement de donner 15% à la santé. Donc, si on regarde, l'éducation, est-ce que nous avons même 5%, 10%? Je ne sais pas. Vous comprenez que pour moi, les problèmes de remaniement, ce n'est pas un problème de fond. Moi, je ne vois pas les problèmes en termes de tête des gens. Moi, je vois les problèmes en termes ou bien en fonction des budgets qui est alloué. Et au mécanisme et au respect des textes. Est-ce que ces textes-là que nous avons mis sur place, ou bien que nous avons fait, qui ont été promulgués, est-ce que vraiment ces textes vont-ils être respectés pour pouvoir répondre aux problèmes, aux préoccupations de la population? Dans notre constitution, il y a la gratuité de l'enseignement élémentaire. Est-ce que vraiment, dans ces budgets-là, on a prévu qu'il y ait effectivement gratuité de l'enseignement élémentaire cette année? Je ne sais pas. Est-ce que nous n'allons pas vivre, à l'épopée des enseignants qui menacent d'aller en grève chaque fois quand la rentrée scolaire approche?
Madame Dubosti.
Voilà un peu, il y a tant de choses qui m'ont poussé à réfléchir. Est-ce qu'il fallait-il applaudir? Est-ce qu'il fallait-il huer? Donc, pour moi, c'est vraiment une matière à réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, monsieur le journaliste.
Merci, Madame Joséphine. On regarde tout au long de l'émission. Lui, Alphonse Daniel Coyagallo, vous allez très brièvement réagir aux propos de Maître Lumea et de Madame Joséphine. Mais la question principale de cette émission, c'est savoir comment le gouvernement Mouzito II compte atteindre ses objectifs et avec quels moyens. Madame Joséphine parlait déjà de la modicité du budget.
Merci beaucoup pour la question. J'apprécie d'ailleurs l'intervention de l'honorable Lumea et de Madame Ngalula. J'ai dit que ces observations sont tout à fait pertinentes, mais nous devons reconnaître d'abord qu'il y avait des missions assignées au gouvernement Mouzito I. Parmi ces missions, il y a la consolidation de la paix. Aujourd'hui, je crois que c'est chose faite, n'est-ce pas? Nous n'avons plus la guerre rangée d'une part entre nos forces armées et les forces dites négatives. Aujourd'hui, c'est chose faite et je crois qu'il faut applaudir. Notre diplomatie était vraiment au creux, hein, au creux vague, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, notre pays a rétabli les relations avec les pays voisins, ça c'est une chose certaine. Et nous sommes allés au-delà, vers les pays d'Europe, les pays d'Asie, les pays d'Amérique, et ça, il faut le reconnaître, c'est un fait. Alors, en ce qui concerne les préoccupations sociales, ce sont des préoccupations évidentes. Et l'honorable Lumea est parlementaire, c'est lui l'autorité budgétaire, n'est-ce pas? Et je le connais pour son esprit de recherche. Et il aurait pu contribuer, dans son esprit de recherche, à trouver des sources autres que celles que le gouvernement a proposées pour pouvoir améliorer l'enveloppe budgétaire. Or, justement, il n'a fait qu'accompagner le gouvernement dans ces propositions-là. Le gouvernement ne peut pas faire autre chose qu'avec les moyens que nous, Congolais, nous mettons à sa disposition. Et c'est dans ce cadre-là, Madame Honorable, le gouvernement ne va pas se mettre devant chaque porte pour distribuer du pain et demander des sous. Ça, c'est de la démagogie. Même la Bible nous enseigne que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les Congolais doivent travailler. Apprenons à dire la vérité aux Congolais. S'ils ont fait aujourd'hui, ils ne vont pas aller dire au gouvernement, donnez-nous à manger, que chacun travaille. Ça, c'est ça. Deuxièmement, ma préoccupation, et ça, c'est je rejoins la préoccupation exprimée par madame, c'est au niveau de personnel qui relève du budget de l'État, qui sont payés par les contribuables congolais. C'est vrai, mais nous allons le faire avec quoi? Avec les moyens que l'honorable Lumea, que je connais très bien, a donné au gouvernement.
Monsieur Koyagallo.
La répartition s'est faite autour de la table. Et ça se fait en tenant compte de plusieurs priorités. Et nous en avons une foultitude de priorités.
Monsieur Koyagallo, parmi les missions assignées au gouvernement Mouzito II, il y a l'amélioration du social des Congolais, atteindre le point d'achèvement, organiser les élections, la réalisation des 5 chantiers. Pensez-vous que toutes ces missions soient vraiment réalistes au regard et du budget et du temps qui reste?
Ces missions seront réalisées au prorata des moyens à la disposition de ce gouvernement. Et c'est nous, Congolais, qui mettons ces moyens à la disposition de notre gouvernement. Et parmi ces moyens, il y a d'abord les recettes et les voies et moyens que nous avons déjà maîtrisés, que l'honorable Lumea a donné à son gouvernement, d'une part, et d'autre part, il y a des moyens que nous espérons avoir. Parmi ces moyens, il y a entre autres
ceux qui vont revenir, rentrer dans le corbeil du gouvernement au terme du point d'achèvement. C'est-à-dire que le moyen que nous affections hier au paiement des dettes, des services de dettes, vont être affectés à l'amélioration des conditions de ceux qui relèvent du budget de l'État, et j'entends les fonctionnaires, j'entends les magistrats, j'entends les médecins, les policiers et les militaires et tous ceux qui sont qui relèvent du budget de l'État. Mais retenons une chose, c'est que le montant, l'enveloppe qui ailleurs peut permettre de faire substantiellement face à ces problèmes, chez nous, Congolais, se révèle vraiment marginal.
Merci.
En fait, que ceux qui relèvent, ceux qui sont aujourd'hui sur le budget de l'État, ceux qui sont payés par les contribuables congolais, militaires, fonctionnaires, policiers, médecins, enseignants, ils sont plus nombreux dans notre pays que ceux qui sont dans des pays voisins.
Merci.
Donc nous avons,
merci,
nous avons une tâche de travailler ensemble pour rationaliser
ce voilà.
que nous, Congolais, nous acceptons de payer.
Merci.
Après cette rationalisation, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain,
voilà.
c'est après-demain que nous allons le faire, mais ça doit être un objectif à atteindre.
Merci, Monsieur Koyagalo. On vous a compris. Permettez que je vous arrête à ce niveau pour donner la parole à Maître Lumea. Maître Lumea, il y a des auditeurs qui nous écrivent et on a beaucoup de réactions. Prenons celle de Mwango de Kindo Manyema qui dit ce remaniement est une bonne chose car il permet de changer des têtes à certains ministères clés devenus, à mon avis, un blocage. J'espère que la nouvelle équipe va opérer des miracles pour accomplir les missions lui confiées durant le temps qui nous sépare des prochaines élections. Chida de Béni au Nord Kivu, le président de la République a fait preuve de sagesse en reconduisant les meilleurs joueurs de l'équipe Mojito, et je reste convaincu que le social cette année sera une réalité.
Je voulais tout d'abord faire marche en arrière pour rencontrer ce que mon frère Koyagialo a dit, que les Congolais doivent apprendre à travailler. Je ne crois pas qu'il veut dire que les Congolais sont des paresseux. Je voulais dire à M. Koyagialo, depuis que ce gouvernement existe, combien d'emplois ils ont créés et les Congolais ont refusé d'aller travailler. Aujourd'hui, les Chinois sont venus ici dans notre pays. Vous savez combien les Chinois payent les Congolais, mais ils travaillent quand même. Tout ce que nous vous demandons, c'est de créer des emplois et vous verrez que les Congolais, ils sont plus de 50% au chômage et vous les connaissez bien. Vous connaissez nos jeunes frères qui viennent de terminer les études universitaires, qui cherchent du travail. Allez au ministère du Travail et de l'Emploi, vous verrez les CV qui sont là, les Congolais cherchent du travail. Donc il ne faut pas insulter notre peuple en disant que les Congolais doivent apprendre à travailler. Nous aimons le travail, mais le gouvernement en place ne nous le donne pas. Sauf si vous voulez que nous puissions tous être des membres de la Croix-Rouge. Je ne crois pas que nous avons vocation d'être tous membres de la Croix-Rouge. Nous devons travailler et gagner notre vie. À ce qui concerne ce gouvernement qui fera les miracles, depuis 60, les miracles n'existent pas, à part, en fait, je veux dire, depuis l'époque des enfants d'Israël, les miracles n'existent plus. Nous devons travailler et ce gouvernement ne veut pas résoudre les problèmes sociaux. Qui sont aujourd'hui les indicateurs sociaux dans notre pays sont au rouge. Et nous avons les chiffres que nous allons donner ici. Ne croyons pas que depuis 2006, après les élections, nous avons fait la première année, la deuxième année, la troisième année, et à la veille des élections que les gens vont changer. Le gouvernement ne va pas changer sa politique sociale, et nous allons voir à la fin de l'année, déjà vous savez, vers le mois de décembre, début de janvier, tout le monde va penser aux élections, et chacun, surtout que le gouvernement est à majorité des chefs de parti, chaque chef de parti va plus penser combien de députés il va amener pour être encore soit premier ministre ou être ministre au gouvernement. Ils ne vont pas s'occuper du vécu quotidien de la population congolaise. Donc je suis au regret de vous dire qu'avant Mouzitou 1 équivaut à Mouzitou 2, il n'y aura pas de changement.
Deux autres auditeurs, Maître Lomé, deux auditeurs de Kalemi au Katanga, Longo, qui dit « Je félicite le chef de l'État pour la sortie de ce gouvernement, mais je me demande si ce remaniement va apporter quelque chose de positif au regard de certaines personnes qui hier étaient démises de leurs fonctions, mais qui aujourd'hui font de nouveau leur entrée au gouvernement. » Norbert de Kalemi encore, « Ce remaniement peut être une bonne nouvelle pour le pauvre peuple congolais qui, depuis l'indépendance, n'a rien bénéficié de son gouvernement. »
Je vais vous donner l'exemple. Prenons le secteur de la santé. C'est mieux que nous puissions en parler. Il y a les maladies qui, à l'époque, étaient éradiquées. Je vais parler de la lèpre, je vais parler de choléra, malaria qui reviennent. Est-ce que nous pouvons dire que ce gouvernement, d'ici décembre, va mettre fin à cela? Parlons un peu de la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, dans notre pays, les taux de scolarisation à l'école pré-primaire est de 2,7. Au niveau du primaire, c'est 90,7. Et là-dedans, il y a 42% qui vont à l'université. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils vont améliorer d'ici décembre 2010? Si nous regardons aussi de près à ce qui concerne la politique salariale, vous savez, messieurs les journalistes, que d'ici décembre, la Banque mondiale a interdit qu'on ne puisse pas procéder aux augmentations de salaires, des émoluments, dans tous les secteurs. Et ça, on ne le dit pas assez. Or, c'est sur ce chapitre que la population attend. Quand on parle du social, tout le monde veut regarder qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qui va changer dans mon vécu quotidien. La Banque mondiale refuse que tous nous gardons les mêmes salaire, celui du taux de 50. Mais il y aura des remous sociaux. Alors quand ils disent que nous allons faire les miracles, quel miracle nous allons faire? Au moment où, sur le plan salarial, rien ne va changer jusqu'au mois de juin. On va nous demander de serrer la ceinture. Mais ça fait déjà plus de 10 ans que nous ne faisons que serrer la ceinture. Donc, moi, je suis réaliste. Je ne vois pas les indicateurs rouges actuellement qui vont changer au vert.
Madame Joséphine Ngalula, vous commenciez déjà à parler du budget, vous posiez beaucoup de questions. Après avoir suivi M. Koya Diallo et M. Lumea, comment vous percevez la suite des événements, comme on pourrait le dire?
Bon, disons que la suite des événements, pour moi, d'abord, comme dans toutes mes réflexions, se base sur les budgets. Je me dis que pour pouvoir répondre à un besoin, on doit avoir les moyens. Et les moyens pour réaliser, c'est les miroirs, c'est les budgets. Et quand on a les moyens, on regarde, on se dit, bon, les problèmes sociaux sont nombreux. Et plutôt sont nombreux, c'est vrai. Mais par rapport à ces problèmes-là, et l'argent que je détiens par rapport à tout ce que nous avons essayé de lire là, parce que j'ai feuilleté un peu les tableaux, tout ça, pour voir. Et je me dis qu'il y a un vrai problème par rapport à la répartition, par rapport à la répartition de ce budget, par rapport à la répartition des postes. Et je me dis comment on peut arriver à lutter, par exemple, pour améliorer la politique d'habitat. Et vous savez très bien que dans notre pays, c'est une minorité qui vit dans des conditions plus ou moins décentes. Et la majorité vit dans des conditions très, très précaires. Il suffit de faire un petit tour du côté de Kingabwa pour découvrir un peu la réalité des faits. On ne se limite pas à Kingabwa, on peut aller du côté de Kintsuka, parce que nous qui sommes sur terrain, nous avons peut-être l'avantage de nous promener à pied et à percer dans tous les coins et recoins. Là, c'est aussi dans la capitale, mais en province, nous y allons aussi. Nous voyons les réalités. Les gens vivent dans des conditions très difficiles. Et quand je vois là, la politique, les budgets qui est affecté, disons, à cette politique qui a des logements, je vois les montants, c'est des 112, j'avais noté, 112 300 000 francs congolais. Et pour une année, ça, c'est pour combien d'habitants? Nous sommes une population de plus de 60 millions d'habitants. Est-ce que vous croyez vraiment que cela va répondre à ses besoins, même si notre politique budgétaire est tournée vers l'extérieur dans un pourcentage important. Est-ce que vraiment on peut penser résoudre tous ces problèmes-là avec l'argent qu'on attend de l'achèvement de l'initiative PPE quand on va nous rétrocéder et on saura, disons, répondre à tous ces problèmes? Et si on n'arrivait pas
Madame
à ce point d'achèvement, qu'est-ce que cela va devenir? Et aussi, il y a aussi les problèmes par rapport à la protection sociale. J'ai un montant de 15 496 044 francs congolais pour la protection sociale. C'est pour quel nombre de populations?
Madame Kiyoki.
Oui, mais c'est...
Donc, si je vous comprends, vous êtes vraiment très sceptique, hein, vous émettez beaucoup de doutes quant à la réalisation des missions du gouvernement Mouzito 2.
Non, moi je ne pense pas que ce soit le problème des doutes ou bien problème d'assurance. C'est un problème de réflexion par rapport à la réalité. Nous sommes des praticiens, nous sommes des gens de terrain. C'est comme les calculs 1 plus 1 égale 2, et nous voyons la réalité des faits. Nous côtoyons toutes les couches sociales. Et par rapport à cette réalité des faits, nous avons des étudiants, par exemple, de l'université de Kinshasa à tout moment. Nous avons les étudiants de l'IEC à tout moment. Nous sommes en dialogue permanent avec tous ces jeunes gens qui montent dans de gros camions par manque de moyens de transport, qui se confinent dans des bus. Bref, nous n'avons pas un moyen de transport ou bien organisé par l'État qui peut nous assurer vraiment les déplacements de toute la population. Si les Kinshasa, si on peut prendre seulement Kinshasa. Et si on regarde dans à l'intérieur, les problèmes est presque le même. Alors moi je n'ai dit que avec ce qu'on nous a présenté comme budget ici, je ne sais pas comment ça peut résoudre tous ces problèmes.
Merci.
C'est une question de réflexion.
Merci madame. On a compris hein, vos réflexions, vos craintes et vos doutes. Il est temps de prendre quelques réactions des auditeurs et puis vous allez y réagir. Hein. Mukula de Lubumbashi au Katanga, comment le Premier ministre définit le principe de la parité consacrée par la Constitution dans son gouvernement? Pourquoi cette faible représentation des femmes dans la nouvelle équipe Mouzito 2? Pascal Adjaroua de Bounia en province orientale, ma crainte est qu'en diminuant l'effectif des ministres au terme de 5 ans du mandat de ce gouvernement, qu'un miracle ne puisse s'opérer vraiment. Bibin de Bénionor Kivu, combien de remaniements reste-t-il encore à faire avant la fin de ce mandat pour satisfaire tout l'AMP sur le partage du gâteau? Iyanya de Bénionor Kivu, qu'est-ce que ce nouveau gouvernement fera de spécial en quelques mois qui restent que l'ancien n'a pas fait? Peter de Kananga au Kasai Occidental, le gouvernement Mouzito n'a pas la volonté d'améliorer le social des Congolais. Pour preuve, celui-ci a été dans l'incapacité de payer régulièrement les salaires des fonctionnaires et retraités. Kassamba de Bounia en province orientale, je pense que changer les hommes c'est bien, mais changer la mentalité c'est mieux. Selon moi, Adolphe Mouzito ne peut réussir les objectifs assignés à son gouvernement que par une bonne gouvernance et un pragmatisme. De Matadi Wabelodi, je pense que le président de la République est en train de réduire ses chances de réussite en 2011 en reconduisant Adolphe Mouzito à la tête du gouvernement congolais. Monsieur Koyagallo, brève réaction par rapport à ce qu'ont dit ces auditeurs.
Il y a un élément important et que j'ai apprécié de l'intervention de l'avant-dernier intervenant quand il a dit « changer de l'homme c'est bien, mais il est mieux de changer la mentalité ». Cela est vrai, aussi bien pour le gouvernement que pour tout le peuple congolais. C'est vrai parce que jusqu'ici, et je ne voudrais pas engager une polémique avec mon frère honorable Lumeya, jusqu'ici, le peuple congolais a l'impression que c'est l'État qui doit faire tout. Même l'emploi.
Mais qu'est-ce que l'État a fait, M. Koyagallo?
L'État doit créer un environnement pour permettre aux privés, nationaux comme étrangers, d'investir. Et je crois que cet effort-là est en cours. Mais l'État ne va pas
pléthorisait, si vous me permettez de le dire, l'administration publique, et c'est ça qui tue le budget, qui tue notre pays. L'État doit rationaliser les effectifs de la fonction publique. Et là, je donne raison à l'intervenant de tout à l'heure quand il a dit qu'il faut plutôt changer la mentalité. Changer la mentalité au niveau des gouvernants comme au niveau du peuple congolais.
Monsieur Koyagialo, quand on revient aux missions du gouvernement Mozito, l'amélioration du social des Congolais et le fait d'atteindre le point d'achèvement, Maître Lumea l'a dit ici, on va encore demander à la population de serrer la ceinture, cela n'est-il pas contradictoire finalement? On se souvient des années Kengo, des années de la rigueur.
Moi, je n'ai pas entendu ce discours-là ni du chef de l'État, ni du Premier ministre. Et j'ai plutôt entendu le chef de l'État dire que priorité sera donnée au secteur social au cours de l'exercice budgétaire 2010. Mais le secteur social, c'est toute une multitude de problèmes. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est les salaires, c'est la desserte en eau et l'électricité, c'est le logement, n'est-ce pas? C'est un vaste domaine. Alors, en ce moment-là, il y a des initiatives qui sont déjà en cours, qui doivent être poursuivies inlassablement.
Merci.
Il y a d'autres initiatives qui sont faiblement entamées, et comme le secteur de logement dont madame a parlé, et qu'il faut réellement concrétiser.
Merci.
Il
ne
faut pas seulement regarder ce que fait le gouvernement central. Il y a également, puisque nous sommes dans un État décentralisé, il y a les initiatives des provinces. Et je vois quelques provinces qui s'y prennent très bien. Je n'ose pas citer pour ne pas faire de jaloux.
Merci.
Il y a des provinces qui s'y prennent très bien.
Merci. Maître Lumea, ajoutons quelques réactions encore. Moufoula de Lubumbashi au Katanga, je condamne l'attitude du Palou de reconduire Adolphe Mozito à la tête du gouvernement congolais au lieu de donner la chance aux autres membres du parti aussi compétents que lui. Pour l'un de qui sont gagnés en province orientale, les Congolais ne sont plus naïfs car on constate que le gâteau gouvernemental se partage bien entre certains hommes politiques de la majorité présidentielle au détriment de la population. Mandé de Manono Katanga, le gouvernement Mozito remanié n'apportera aucun changement à la vie des Congolais. Je me demande si des nouveaux membres de cette équipe gouvernementale sont là pour leurs propres intérêts en attendant les élections prochaines ou quoi, car le temps de nous distraire est déjà passé, Maître Lumea.
Oui, je crois que nous devons être corrects avec notre population. Tout d'abord, il faut qu'on confirme que d'ici juin, il n'y aura aucune augmentation des salaires. Ce n'est pas un secret. Ensuite, le gouvernement, on doit revenir et rappeler ce que le gouvernement avait déjà promis depuis 2007 pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Je donne les exemples. On nous avait promis 13 ponts dans les provinces en raison d'un pont à Lozi, dans le Bas-Congo, 3 ponts à Lofoy, 1 Lofoy 2 et à Loko, 5 ponts à Epulu, 3 ponts à Mokole dans le Kasaï oriental. On nous avait promis 19 bacs. On nous avait promis, moi je suis de Kikwit, on avait promis qu'on allait réhabiliter depuis 2007 la brigade de l'office de route à Kikwit. On allait donner du matériel. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien donné. On a promis au peuple congolais, à ce qui concerne dans le secteur de la santé, 31 hôpitaux de 150 lits préfabriqués à raison d'un hôpital par province. Nous attendons cela jusqu'à aujourd'hui. On devrait construire 145 centres de santé de 50 lits en préfabriqués à raison d'un centre de santé par territoire. On avait promis encore au peuple congolais depuis 2007 qu'on allait construire 3 écoles par territoire. Est-ce que on peut, c'est ça, améliorer les conditions des équipes quotidiennes de la population congolaise. Est-ce que les amis en face peuvent nous dire que d'ici décembre, toutes ces promesses seront réalisées? Parce que c'était les promesses pour cette législature. C'est pour vous dire, on peut bien dire que dans les secteurs sociaux, nous allons améliorer. Pour nous, ces améliorations, nous savons qu'est-ce qui devait être fait dans chaque secteur. Et là, les 150 lits 31 hôpitaux, nous ne verrons jamais le jour. D'ici décembre, nous serons avec vous. Et quand nous entrons janvier 2011, personne ne va construire parce que la population n'est pas bête. La population saura que c'est pour des buts tout à fait électoralistes que ces gens viennent.
Mais M. Koyagalo est revenu sur le budget, hein, vos autorités budgétaires. Quelle est cette enveloppe que vous avez mise à la disposition du gouvernement pour lui permettre d'atteindre
ce budget? Mais justement, nous sommes l'autorité budgétaire. Quand le gouvernement y vient, il nous dit que nous avons fait des bons en avant avec ces 6 milliards. Au-delà des 6 milliards de dollars, la Banque mondiale n'autorise pas. Parce que c'est le discours du gouvernement. Et moi, je veux vous dire qu'il y a une mauvaise affectation des ressources budgétaires. Pourquoi? Parce que, monsieur le journaliste, en 1998, avec Kabila le père, avec 300 millions de ressources internes, Kabila le père payait un militaire 100 dollars. Aujourd'hui, les ressources internes, 10 fois plus, 3 milliards de ressources internes. Pourquoi les militaires ne gagnent pas plus de 100 dollars? La mauvaise affectation des ressources. Les gens se remplissent les poches. Et au niveau du gouvernement, il y a des commissions. Donc, les peu de ressources que nous avons sont mal gérées. Et ça, la responsabilité, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, oui. Mais est-ce que nous contrôlons le secteur financier? C'est un grand blocus. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y a l'honorable Emery Okundji qui avait initié une mission d'enquête à la Banque centrale. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas cette mission. Donc la volonté est qu'il y a des secteurs où on ne veut pas que les législateurs contrôlent, que les parlementaires contrôlent.
Madame Joséphine Galula, d'autres auditeurs encore, hein, Kingo de Kamanga au Kassai Occidental, je veux savoir, lorsqu'on parle de l'amélioration du bien-être social, comment cela va-t-il effectivement se passer? Wissa Kika de Bukavu Sud-Kivu, le premier gouvernement d'Adolphe Mouzito n'a pas été à la hauteur de ses tâches en manquant de résoudre les multiples problèmes des Congolais. Quel sera l'apport de cette nouvelle équipe au regard de la situation sur le terrain? John Peter Bissiro en province orientale, tant que la corruption, le détournement et l'impunité seront en bonne santé, le social des Congolais ne s'améliorera pas. Je suis sceptique car ce système s'est vraiment enraciné. Maître Lumea a parlé tout à l'heure des chefs des partis politiques qui sont revenus en force dans ce gouvernement. La société civile à votre niveau ne craint-elle pas que finalement toutes ces missions ne soient qu'un chapelet de bonnes intentions?
Monsieur les journalistes, je voudrais d'abord réagir par rapport à l'intervention de notre auditeur, je crois, de Lubumbashi, par rapport au respect des textes sur la parité ou bien sur la représentativité de la femme. Je crois qu'il a bien vu ou bien il a bien observé comme moi que nous avons, disons, la réputation d'avoir les plus beaux textes en RDC. Mais nous avons malheureusement la manie ou bien la coutume de ne jamais respecter nos textes. Et moi, je crois que si on ne respecte pas nos textes, et un texte, disons, une disposition qui est consignée dans la loi fondamentale, je me dis vraiment quel est l'espoir que nous pouvons avoir pour pouvoir, disons, respecter même l'exécution de ce budget-là, afin de pouvoir répondre, afin de pouvoir répondre aux besoins établis comme tels. Voilà un peu ma réaction. Il est vrai que l'article 14 de la Constitution parle de la représentativité de la femme d'une façon paritaire. Ça parle de la lutte contre les violences faites à la femme. Mais à notre regret, nous constatons que cela n'a pas pris en compte. Est-ce que c'est par les élections que ceux qui sont nommés au gouvernement sont là aujourd'hui? Je ne pense pas. Ce sont des gens qui ont été nommés. Mais pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui ne sont pas compétentes aussi comme les hommes pour pouvoir prétendre aussi participer à ce gouvernement? Voilà un peu les sujets des réflexions qui me font dire que l'espoir n'est pas vraiment à l'horizon. Pourquoi? Parce que déjà pour ces faits-là, vous avez des textes qui sont très clairs. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Mais pour mettre ces textes-là en pratique, c'est un problème. Je me dis comment nous allons respecter l'exécution du budget qui émane de la loi budgétaire, qui est aussi une loi comme tant d'autres. Voilà un peu la difficulté que j'ai.
Merci, madame.
Je voudrais en venir au problème de point d'achèvement.
Très rapidement, madame, très rapidement.
Oui, il y a le passage que j'ai lu dans la conclusion de projet de loi sur le budget qui dit ceci. En effet, le gouvernement est déterminé à conduire les pays au point d'achèvement de l'initiative PPTR en vue de bénéficier des annulations substantielles de stocks de la dette extérieure. À cet effet, il s'engage à mettre en œuvre tous les déclencheurs irrelatifs avant la fin de l'année 2009. C'est donc ça que le gouvernement entend conclure un programme formel à moyen terme avec le Fonds monétaire international dont les exigences impliquent une gestion macroéconomique rigoureuse. Je m'arrête là pour dire que notre, espoir est tourné vers les points d'achèvement. C'est pour justement répondre à la préoccupation d'un auditeur qui avait relevé ces faits et renvoyé aussi M. Koyagialo à la lecture de ces textes pour dire que c'est vrai et que ce n'est pas correct. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous imaginer vraiment promouvoir le social avec, la politique des rigueurs. Nous l'avons reçu à l'époque avec l'actuel président du Sénat quand il était... Nous avons même l'immeuble de la rigueur sur les boulevards du François à propos de Sotacom. Voilà un peu, ce sont des faits qui nous font vraiment penser que ce n'est pas demain que mon enfant va tomber malade, je l'amène à l'hôpital.
Merci madame, merci madame Joséphine, on vous a compris. Monsieur Koyagialo, notamment vers la fin de cette émission, l'absence du CNDP dans ce gouvernement est interprété comme une violation des accords par le CNDP qui a tenu un point de presse ce soir. Comment vous réagissez à cet aspect?
Je considère que l'essentiel n'est pas là. Je dis que l'essentiel, c'est le concert de volonté et de la part du gouvernement et de la part du CNDP de créer la paix dans notre pays. Les Congolais ont besoin de la paix. C'est une chose que nous devons saluer, applaudir. Quant à ce qui concerne la participation dans les instances dirigeantes du pays, la Constitution a tracé la voie. Il faut passer par les élections, à mon avis. Et je crois que en 2011, les élections sont là. Ça figure parmi les missions assignées au gouvernement Mobutu II. Et bien que nos frères le CNDP se prépare pour aller aux élections et prendre le pouvoir par les urnes au lieu de tenter de le faire par les armes. Et heureusement, ils ont dit qu'ils ne vont pas rentrer aux armes pour la conquête du pouvoir. Je les salue sur ce point-là.
Alors, c'est déjà la dernière partie de cette émission. Monsieur Koyagialo, en 20 secondes, votre conclusion.
Ma conclusion est que le pays a accumulé des problèmes depuis 2 années et ce n'est pas à un seul mandat que par une sorte de baguette magique nous allons résoudre. Il suffit de commencer, on a commencé et l'effort se poursuit. Nous étions dans des bateaux qui prenaient l'eau de toutes parts. Insécurité par ici, problèmes sociaux par là, et aujourd'hui nous avons maîtrisé le problème de sécurité et on est en train de s'attaquer méthodiquement. Irréversiblement au problème des infrastructures, aux problèmes sociaux. Et je crois que tous les Congolais doivent faire confiance au président Joseph Kabila Kabange et l'engagement de leur restituer l'espoir.
Merci à lui, Alphonse Koyagialo, secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle. Maître Lumea, votre conclusion également.
Pour moi, je dirais que les vieux moteurs diesel mis dans ce bateau qui prend de l'eau quelque part, finira par couler. Je crois qu'il n'atteindra pas le point d'achèvement.
Merci à M. Lumea, député national de l'opposition et vice-président du groupe parlementaire des chrétiens-démocrates à l'Assemblée nationale. Madame Joséphine Ngalula, en 20 secondes aussi, votre conclusion.
Oui, moi j'ai dit que le respect de la législation, je crois que c'est la mère des sciences. Si on s'aimait à respecter le texte, je crois que l'espoir renaîtra et tout le monde, pourra applaudir et dire que voilà, c'est vrai, nous allons aller vers l'amélioration du social.
Merci.
Et je l'ai dit aussi que l'OADA, nous avons signé pour adhérer à l'OADA.
Merci, madame.
Le texte, on respectera jamais.
Merci Madame Joséphine Galula, coordonnatrice nationale du réseau Action Femmes RAF, membre de la société civile. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle composée de Guy Mathieu, Samuel Kachak sous la coordination de Martin Sebou-Jangwe, la mise en monde et de Mimi Kindou sous la coordination technique de Bob Landou, Alain Hirung. Je vous l'ai présenté. À demain. Oh, Cassie, oh, Cassie.